18h, 19h, Tribune Nord, Sylvain Charlet, sur France Bleu Nord.
Et vous essaierez de savoir si on est vraiment pro-Lensois ou pro-Lillois au terme de cette émission.
Mais en tout cas, mens, hein.
Lui, il est pro-Lillois.
Oui. C'est un poisson d'avril.
Merci Stéphane, vous m'avez sauvé la mise. Stéphane Powels, notre voix belge. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir, par contre, c'est pas un poisson d'avril, je suis bien supporter du LOSC, j'assume.
Vous êtes bien belge.
Mais j'adore Lens. Ouais. Mais une fois.
Rémi Coquel, notre foot freestyler, est avec nous. Salut Rémi.
Bonsoir Sylvain, bonsoir tout le monde.
Pro-Lensois ou pro-Lillois, vous?
À votre avis. Moi, je suis comme vous, Sylvain. Moi, je suis pro-Lensois.
Ah, vous êtes pro-Lensois. Mais pourtant, je vous vois de temps en temps avec un maillot lillois dans vos présentations de foot freestyle.
Il est malin, il a compris.
Il faut bien travailler. Faut travailler, monsieur.
Non, je suis très bien accueilli à Lille. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de travailler avec le LOSC également.
Pas trop dur là-dessus. De porter le maillot?
Non, ça va. Ça brûle un peu, mais.
La matière, il n'a pas le coton.
Non, c'est le coton qui va pas.
Lucas Aubat est avec nous également, l'un de nos monsieur communication dans cette émission. Salut Lucas.
Bonsoir.
Bienvenue Lucas, qui a passé un bon week-end également, festif.
Bien mangé, bien vu.
Ah, vous sortez d'un repas de famille en plus.
Exactement.
Bon, allez, on va en parler dans quelques instants.
Et personne n'a ramené les œufs aussi. Hein.
Ah non, pas de chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat.
Exactement. Bon, on va vous faire gagner dans quelques instants le ballon Kip Stade Décathlon, bien entendu. Question de sélection juste avant 18h30. Un ballon d'une valeur de 80 euros. Je vous le rappelle, c'est le ballon officiel de la Ligue 1. On va revenir, bien entendu, sur ce derby. La leçon lilloise et la leçon tactique quasiment de Paolo Fonseca. L'abattement de Brice Samba, la déclaration forte de Francaise. Là, on a envie de vous entendre là-dessus. N'hésitez pas aussi à nous appeler 03 20 55 89 89. On fait avec ce qu'on a. C'est ce qu'a dit le coach. Il n'a pas dit que ça, mais ça m'a marqué et j'ai envie de vous entendre là-dessus. Le doublé de Zegrova qui a mis au supplice la défense lensoise. La sale soirée de Medina et de Chavez. Et je n'oublie pas le top com avec un spécial Coupe de France puisque demain, Valenciennes va s'imposer à Lyon en demi-finale de la Coupe de France. Ce ne sera pas aisé, on va en parler. Et je n'oublie pas notre quiz.
Tribune Nord, l'info du week-end.
Et l'info du week-end, bien entendu, c'est ce très beau succès de Lille dans le derby sur le score de 2-1. Lille aurait pu mener 3-0, mais Lens aurait pu aussi revenir dans cette rencontre. Retour sur la très belle soirée de communion à Pierre-Mauroy. C'était sur Bleu Nord.
C'est notre fierté qui est mise en jeu, c'est notre honneur, donc forcément on est content. En plus, on a une place pour la Ligue des Champions, j'y crois.
C'est pas en s'enflammant après une victoire qu'on réussira à accomplir de belles choses, parce que concrètement, on n'a encore rien fait. Il y a un moment dans cette saison, on était 3e, on a fini par être 5e. On voit très bien, les équipes se collent un peu et il n'y a personne qui a réussi à prendre de large.
Eh oui, très très belle équipe du LOSC. Je rappelle qu'au classement, le LOSC est 4e avec 46 points, Monaco 3e avec 49 points, Brest 2e 50 points, et derrière Nice 43 points, Lens 42 points, Marseille 39 points. Donc le break est un peu, enfin non, il est pas fait, mais il y a un résultat très intéressant. Stéphane Powels, cette équipe du LOSC, voilà, elle nous a produit quelque chose vendredi soir qui nous fait dire qu'elle doit aller chercher le top 3. Elle doit aller se qualifier directement pour la Ligue des Champions, parce que la quatrième place, c'est un piège quand même, hein. Il faut passer par les barrages.
Alors Sylvain, et même si tout le monde sait, mon cœur lillois, j'y ai travaillé, mais j'essaye d'être objectif. Le problème, c'est qu'on est souvent déçus depuis le début de saison, c'est qu'ils alternent des périodes. Je vais bien parler de périodes dans le match. Ils font une première mi-temps, mais d'une équipe qui peut même rêver du titre, hein. Why not? Pourquoi pas?
Et Paris est loin quand même, là.
Non, mais je te parle.
Oui,
dans la qualité de ce qu'ils ont proposé, ils sont du niveau.
Autant pour moi.
De grande qualité. Et puis la semaine d'après, ils l'ont fait souvent, hein. Et d'ailleurs, Olivier Létang a pété quand même 2-3 fois des câbles quand derrière, les types nous faisaient n'importe quoi.
À Toulouse. Donc,
c'est pour ça que moi, je reste tout le temps, pas sur ma faim. Je pense que quand le groupe joue comme cela, et après, je vais laisser la parole aux autres, mais quand ce groupe joue déterminé avec des guerriers style. Votre gardien, bon, lui est bon depuis le début de saison, mais quand Benjamin André est là, c'est sûr qu'il insuffle une dynamique collective. Ben Taleb, il était chaud comme une baraque à frites. Et même Haraldsson, il a commencé à comprendre comment il fallait jouer le LOSC. Donc à ce moment-là, quand t'as une équipe qui a faim, et c'est là mon analyse, et après on va aller plus loin sur l'entraîneur et tout cela, je sais que vous avez fait une conduite.
Moi, j'ai à 18h30, on parle de Fonseca.
J'ai quand même vu deux choses. J'ai vu une équipe, et là je parle même pas d'entraîneur et tout, je parle globalement d'une équipe qui s'est rendu compte qu'il jouait un derby, et qu'il fallait le gagner pour ses supporters et pour leur classement, hein, parce que et aussi pour eux, ça s'appelle Lille. Et moi, je suis atterré de cette équipe lensoise. Et vous savez que j'ai une affection pour cette équipe-là aussi, qui, elle, par contre, n'a tout simplement pas joué. Est-ce que c'est un état d'esprit? j'ai mon avis, je le dirai tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était clair qu'après 20 minutes, tu dis, c'est quoi ça?
Ouais, c'est vrai qu'il y a, Rémi, il y a trois occasions nettes. Lille peut mener 3-0 dans ce match. Lens a vraiment eu du mal à exister. Et c'est vrai que Stéphane utilise un terme très juste, je trouve. Détermination, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas avec le LOSC.
Alors, moi, concernant le Racing Club de Lens, il y a un mot qui me vient à l'esprit, et ça m'embête vraiment de l'avoir à l'esprit, c'est inoffensif. Mm-hmm. C'est-à-dire que, si on regarde les statistiques, 50-50 en possession de balles, 5 corners partout, enfin, je veux dire, quand on regarde ces statistiques, on se dit le match était équilibré. Cependant, on va regarder les statistiques, les stats donc des tirs. Il y a deux fois plus de tirs cadrés côté lillois, donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup mieux exploité le ballon, qu'ils ont su l'utiliser beaucoup mieux que les Lensois, et surtout, ça laisse aussi paraître qu'il y avait plus, probablement, de détermination. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu plus de fraîcheur? Je n'en sais rien, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, Lille a mieux utilisé le ballon que le RC Lens.
Aujourd'hui, le RC Lens, il a une difficulté, c'est qu'il n'arrive pas à se renouveler. Donc on avait une philosophie de jeu qui a bien marché sur les 2-3 dernières saisons, et cette année, après la magnifique saison de l'année dernière, on sent quand même que les équipes adverses travaillent mieux l'équipe du RC Lens, et c'est beaucoup plus difficile pour le RC Lens de mettre son jeu en place. Moi aujourd'hui, je pense tout simplement que le RC Lens est au bout d'un cycle, et on en reparlera tout à l'heure, mais Francaise l'a compris avec sa fameuse phrase.
Revenons sur Lille, parce que Lens, on va en parler après. Là, j'ai envie de vous entendre vraiment sur cette équipe du LOSC qui derrière va défier Marseille vendredi, va recevoir Monaco dans deux semaines, il y a le match face à Strasbourg, il y a deux fois Aston Villa. Cette équipe, vendredi, je trouve qu'elle a clairement affiché ses ambitions. Elle l'avait déjà fait auparavant, Stéphane.
Ouais, il y a un truc que les gens ne mesurent pas, c'est que ce club a un entraîneur hors norme. Et ça veut dire que Fonseca est un grand coach. Ouais. Parce qu'il arrive à mobiliser ses troupes, sachant que tu as quand même quelques mecs qui se comportent comme des touristes, et qui ont pas faim. Et là, ils avaient faim. Moi, c'est pas la bonne idée à Aston Villa, parce que Aston Villa, c'est costaud. J'ai regardé.
Quatrième de première ligue.
Mais ça joue. Donc, il faudrait pas que ces matchs-là nuisent à ta fabrication d'un bon résultat en fin de saison.
L'avantage, c'est que la Ligue a fait un petit cadeau à nos clubs européens. C'est-à-dire que là, tu vas jouer Marseille le vendredi 5. Et ensuite, tu es en pause de championnat pour préparer ta double confrontation face à Aston Villa. Mais il va falloir après enchaîner Monaco et Strasbourg.
Marseille, tu vas les taper. Marseille, je les ai regardés hier contre Paris. C'est vraiment jouable pour une équipe de Lille avec ses compétences. Et n'oubliez pas non plus qu'on a joué sans Angel Gomez, qui est quand même, on peut dire ce qu'on veut. Alors,
trois semaines d'absence,
C'est facile de le dire, mais on en reviendra s'il faut d'Aralson. Mais Angel Gomez est vraiment un joueur de grande qualité qui donne une animation offensive et qui permet à tes attaquants de jouer différemment, parce que encore une fois, David, tu peux lui mettre une médaille, parce que il a couru partout dans les espaces, les intervalles.
On parle de joueur cadre, il en fait partie.
Mais Angel Gomez aussi fait partie des joueurs cadres.
Et le milieu de terrain, Ben Taleb André, c'est un milieu qui donne le là, je trouve, parce que c'est une équipe. On va revenir sur la tactique du LOSC après 18h30, mais c'est une équipe qui était capable de défendre bas, qui est allée chercher haut, et ces deux-là sont vraiment des chefs d'orchestre, en l'absence en effet d'Angel Gomez, Rémi.
On est à la fois sur des profils défensifs et à la fois des relayeurs, et donc c'est des multifonctions. Ça fait un petit peu penser au duo, si on fait un parallèle avec Lens, Fofana, Samed l'année dernière, sauf que c'est encore mieux exploité. Parce que là, quand on voit, on va prendre un exemple concret, le premier but de Zegrova.
Quelle passe,
tout est magnifique. La passe, elle est dans le bon tempo.
Mais Ben Taleb, il est techniquement bon.
Mais c'est l'idée.
Non, mais c'est ce que tu dis parfois. Et moi, je te rejoins, parce que parfois, on le fait passer pour un boucher. J'entends.
Non, pas du tout.
C'est un mec moderne. C'est un 6 récupérateur qui donne des ballons.
La passe, elle est clairement dans le bon tempo. Et il y a d'autres choses aussi sur le but. Bon, ça, on pourra revenir sur les défauts du RC Lens sur les buts encaissés. Mais il y a également, il me semble que c'est un appel, c'est de Thiago Santos qui enrhume entre guillemets avec
son
appel.
Sur le deuxième
but ? Non, sur le premier.
Sur le premier but.
Et c'est un appel qui fait que Chavez remonte.
Ouais.
Ah, c'est David.
Ouais,
c'est Chavez remonte.
David emmène Medina dans l'axe, qui perd du temps sur Zegrova qui est dans son dos, et Chavez est en retard parce qu'en effet il a été aspiré.
Il a été aspiré. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation qui tactiquement est parfaite côté lillois, parce qu'ils ont exploité à 100%, ils ont optimisé les capacités de Zegrova, parce que Zegrova quand ils l'ont un contre un alors que le défenseur est en recul frein. Bon, il n'y a pas grand monde qui peut l'arrêter.
Moi, je veux bien. Et je suis fan de Zegrova, j'ai déjà dit.
Mais là, sur ce match-là, il n'est pas critiquable.
Il est exceptionnel. Non, mais Zegrova, c'est pas ça que je veux dire. Zegrova, son pied droit, il ne sert qu'à marquer un montant
de bus. C'est mieux.
Mais comment tu défends sur lui? Tu le sais que quand tu défends comme ça, chaque fois, il va te passer. Chaque fois, il va pousser avec
mais
son ballon pied gauche.
Quasiment tout le temps.
Et c'est fini, quoi. Ouais, mais ça veut dire que la mise en place tactique de M. Hayes et ici était moins bonne.
Oui, mais là, le problème, c'est que la prise à deux, elle n'est pas active, parce que Medina, il est acculé dans l'axe. enfin, il file dans l'axe et Chavez, il
c'est
est
exactement
trop
ça. Lucas, ouais,
Lucas. Aujourd'hui, la grosse différence entre Lille et Lens, c'est que la qualité individuelle des joueurs. Là, sur un match comme celui-là, la qualité individuelle des joueurs du LOSC, elle est nettement supérieure à ceux du Racing Club de Lens. Aujourd'hui, on voit Zegrova. Aujourd'hui, un Zegrova, il y a encore 2-3 semaines, voire un mois, il aurait enroulé sa balle côté ouvert. Et aujourd'hui, il a complètement enrhumé Samba en fermant son pied.
Et Lucas, t'es gentil, hein, parce que.
Oui, je suis très gentil.
T'es vraiment gentil garçon, parce que tout le monde sait aussi que j'ai le respect du Racing Club de Lens. C'est les Gudmundsson et compagnie à Lille. C'est pas des phénomènes, hein. Et le problème, c'est qu'ils ont tous fait un grand match. Dire que les Gudmundsson, ouais, ils peuvent m'énerver.
Thiago Santos,
il a fait un match de malade, il a fait un match de fou, alors que. On les a déjà vus aussi à travers. Alors, quand tu parles de qualité individuelle, je suis le premier à dire que à Lens, moi je pense que c'est juste une question d'état d'esprit, la qualité individuelle de Lens. Quand même Sotoka, qui est quand même un guerrier, même lui tu le vois pas. Donc c'est une question de mentalité.
Sotoka techniquement parlant.
Non, mais vous êtes en train de le vendre.
Parlant, moi, c'est moins fort que Zegrova.
Moi qui suis à Lille.
Mais il y a pas que la technique.
On essaye Lucas essaye de me vendre.
Lucas
Perišović. Tu connais pas, t'es trop jeune, mais c'est un très grand joueur, entraîneur d'Anderlecht. Lucas Perišović. Maintenant, ça, tu ne connais pas. Et qui est un très beau prénom, d'ailleurs. Il faut être honnête que je ne pense pas qu'il faut essayer de comparer la qualité individuelle. Effectivement, à Lille, je pense qu'il y a un petit niveau supérieur. Mais Lens aussi a de la qualité individuelle. Il ne faut pas jeter le bébé à la mer. Je pense.
À la mer, directement.
Parce que je pense que. C'est belge. Et je pense que les Lillois ont été tout simplement supérieurs psychologiquement. Préparer mentalement.
La fameuse détermination. Stéphane Pauwels, Rémi Coquel, Lucas Aubin sont réunis. Ce soir, on débat jusqu'à 19h.
Tribune Nord, la phrase de la semaine.
Et même les phrases de la semaine, on les doit à Brice Samba et à Francaise après cette défaite dans le derby. Alors, Brice Samba, je le trouve un peu fataliste, mais moi, j'ai été un peu choqué par les propos de Francaise. Écoutez.
Je pense qu'on est à notre place. Voilà, faut dire les termes. Je pense que quand on joue les gros, bah, il nous manque toujours ce petit quelque chose. Et il faut faire un constat réaliste qu'on est à notre place et ça sera notre championnat.
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je veux pas incriminer qui que ce soit, mais il faudra encore améliorer l'équipe tant que faire se peut pour pouvoir se hisser au niveau des tout meilleurs. Mais c'est pas encore notre cas. En tout cas, c'est pas notre cas cette saison.
Alors je sais pas si à la maison vous faites avec ce que vous avez avec et que ça ne vous suffit pas.
Si je dis ça à ma femme, je me fais engueuler.
Non mais qu'on fait de la cuisine.
Non mais je pense que dans l'interprétation. Je la redonne.
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je me rappelle un jour d'un certain Raymond Domenech qui avait dit, c'est pas la même, hein, je racle les fonds de tiroir, sous-entendu, bah je fais avec ce que j'ai pour faire une équipe. C'est quand même. C'est Francaise qui dit ça. C'est limite une erreur de communication. Ou alors il passe des messages.
Non, je vais défendre Francaise sur un point. Après, on peut en reparler aussi où je pense que lui, dans sa tête, il est déjà ailleurs, mais je peux l'expliquer. Mais ça, j'en suis convaincu. Mais quand il dit ça à chaud, et c'est jamais bon, à chaud, je pense pas qu'il parle de ces joueurs qui ont joué là dans la qualité. C'est son banc. C'est-à-dire, c'est son effectif quand il dit on fait ce qu'on a. Parce qu'il y a un moment, ok, il fait rentrer.
C'est pas que les changements, c'est aussi des titularisations.
Mais regarde bien avec ce qu'on a sur le banc. Moi, j'ai cette interprétation là. Lucas, quand tu regardes, non.
Je pense que c'est avec ce qu'on lui met sur le banc.
C'est ça.
Aujourd'hui, je pense que c'est une phrase qui sort de sa bouche d'entraîneur et pas d'entraîneur du Racing Club de Lens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est un message destiné au grand public, au monde du foot en général, c'est qu'aujourd'hui, Francaise, il est un petit peu, je pense, en train de se détacher du problème qu'il y a actuellement au Racing Club de Lens en termes de résultats négatifs. Et c'est aussi une manière de dire, voilà, aujourd'hui, la direction sportive du Racing Club de Lens, elle est peut-être défaillante, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure.
Il renvoie la patate chaude, exactement.
Je pense qu'aujourd'hui, il est en train un petit peu de montrer et de se dédouaner un petit peu des choses en disant, je fais avec ce que j'ai, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on me donne, avec ce qu'on me donne sur le banc, avec ce qu'on me met sur le banc. Et aujourd'hui, moi, je peux pas forcément faire des miracles avec ce qu'on me donne, ce qu'on me met entre les mains.
Avant de donner la parole à Rémi, je rappelle que cet été, le club a investi 45 millions d'euros sur Eli Wahi et sur Andy Diouf. Donc, on avait quand même les moyens d'investir sur des joueurs.
Rémi Coquel. Je suis complètement d'accord parce que on peut l'interpréter de plusieurs manières ce message. Ouais. Mais je pense qu'on peut également interpréter autre chose, c'est que il y avait une semaine internationale juste avant. On avait un Frankowski qui, trois jours avant, avait joué 120 minutes dans un match à haute intensité. Non, non, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, j'entends pas que Frankowski.
Laissons développer Rémi.
Machado n'est pas là. Et on voit la différence, hein. Chavez, Machado, ne serait-ce que dans l'animation ou dans l'entente avec Medina, c'est pas la même chose.
À Lille aussi, il y avait des mecs qui étaient en équipe nationale.
C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais je parle pas que de l'équipe nationale. Je parle aussi de l'infirmerie. Parce que Machado pas là. Il y a Grady qui est pas là. Il y a Frankowski qui est rincé. D'ailleurs, on le voit sur le deuxième but, il finit par avoir 5 mètres de retard. On a Samed qui, depuis le début de saison, contrairement à l'année dernière, il est vraiment plus en jambes comme on a pu le voir l'an dernier. Bon, il manquerait plus que, et je veux pas lui porter la guine, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de saison, il manquerait plus que Saïd fasse une rechute et puis là on a une.
Donc ça veut dire, selon vous, il faut comprendre la phrase de Francaise comme on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En ce moment, au moment donné.
Rémi, le fautif, à la base, ce qui se passe là, des mecs qui rentrent à moitié, Fulgini et tout ça, les mecs qui rentrent à moitié, des mecs qui sont en train de lâcher un peu, des gars, parce que tu viens sur les blessures, moi je veux bien, mais des gars, et Grady, ça je veux bien l'entendre, lui il te manque, parce que lui c'est André.
Et Machado.
Mais moi je pense que le fautif c'est, mais avec beaucoup de respect de Frank Hayes, c'est quand il annonce, et le club d'ailleurs, quand ils annoncent à un moment qu'il n'est plus dans sa fonction, qu'il va revenir sur ses bases d'entraîneur, je l'ai dit ici avec avec Sylvain, on me regardait certains ici avec des yeux de merlan frit, et ce jour-là, c'est vraiment un fait important pour le Racing Club de Lens. Il vient t'expliquer, lui, le manager, qui avait un œil sur tout. Et attention, où je peux le défendre, c'est qu'il se dit, j'ai pas les moyens de recruter comme j'ai envie de recruter. Je fais peut-être pas ce que je veux.
Ah, mais ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il était fatigué, qu'il en pouvait plus. Enfin, il était sur notre antenne il y a deux semaines.
J'ai entendu l'interview qu'avec toi, qui était très bien, ton interview. Il raconte ce qu'il veut. Moi, je pense qu'à un moment, parce que j'ai quand même aussi mes antennes, je pense qu'à un moment, c'est humain. J'ai travaillé dans des clubs avec des coachs, je sais comment ils fonctionnent, ils veulent le pouvoir du tout. Et le club de Lens, à ça, à leur décharge, disent, ouais, mais nous, c'est nous. L'identité, c'est le club. Donc, on laisse pas tout faire à un entraîneur. À partir du moment où il dit, je décroche, et je vais rester entraîneur, et je m'occupe plus du management et du recrutement.
Donc, ne parle plus de ça. C'est ça l'idée.
Mais c'est-à-dire que tu donnes un signal à certains de tes joueurs, qui étaient un peu le papa pour eux. Et là, le papa, c'est le papa.
Lucas Aubin, est-ce que c'est aussi peut-être un message subliminal, je sais pas, enfin un message à ses dirigeants aussi, parce qu'on sait que c'est tendu en ce moment. On l'a entendu, on l'a lu dans l'équipe, dans la Voix du Nord. Il y a un problème avec le responsable du recrutement. On a failli le remplacer. Finalement, le remplaçant ne vient pas.
Il y a un gros problème de fond, je pense, au Racing Club de Lens. Et ça sont les débuts de ce problème. C'est le départ de Florian Ghisolfi.
Exactement.
Et le vrai faux départ de Grégory Thiel, si je me trompe pas. Là déjà. Ça a commencé un petit peu. Il y a eu un petit peu de problèmes. Ça, c'était assez bizarre de comprendre ce qui se passait. Grégory Thiel s'en va, puis il s'en va plus.
On n'a pas trouvé le remplaçant de Ghisolfi.
Non. Récemment, on a le Lens-Nice avec Francaise qui dit quand même qu'il y a des déclarations assez élogieuses vis-à-vis de Florent Ghisolfi en mode bon. On lui en veut, mais pas tant que ça. C'est aussi ça fait aussi partie du métier.
C'est le game.
Voilà, c'est quand même des messages assez contraires à ce que la direction du Racing Club de Lens a pu dire. Il y a le cas Frédéric Hébert qui vient et puis qui aujourd'hui finalement
n'est plus finalement
dans la course.
Mais ça, tu sais,
il y a un problème de fond, je pense, au Racing Club de Lens. Et Stéphane, tu nous le diras, t'as travaillé dans des clubs. Je pense qu'il y a il y a des choses à régler au Racing Club de Lens. Et finalement, à la toute fin, il y a que le terrain qui parle et le terrain finit toujours par en pâtir.
Rémi avant Stéphane.
Ben moi, tout ce que je vois, c'est pour l'instant, c'est un incendie, parce que ça me semble évident maintenant. Il y a des choses qui se passent pas bien en interne, et j'ose espérer que ça aura pas de répercussions sur le terrain, pour le coup. Mais, je veux dire, là, le Racing Club de Lens, c'est sixième. C'est pas non plus,
Non, pas du tout. Tu es européen pour l'instant.
Et ils peuvent revenir sur le LOSC, hein. Il y a pas.
Et le septième sera peut-être européen.
Mais au-delà de ça, là, quand on voit le calendrier du Racing Club de Lens, ils reçoivent 4 fois, ils reçoivent Le Havre, Montpellier, Lorient et Clermont. Avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là, c'est un calendrier qui est quand même assez
favorable. Ils doivent aller chercher l'Europe.
Alors, il faut pas se mettre la pression, parce qu'à la base, ils se laisseraient pas mis dans ce genre de situation.
Au vu de ce qu'ils donnent.
Non, mais ce qui est sûr.
Et au vu de la situation en interne, ça me fait un petit peu peur. J'espère que justement cet incendie va être éteint d'ici là, parce qu'il va absolument falloir que la réalité du terrain parle, quoi.
Ouais, mais Rémi, ce qui est sûr, c'est que on en revient. Ace donne un signal à un mauvais moment, à une mauvaise période. Et donc à un moment, moi j'ai vécu ça dans un vestiaire. Quand à un moment, t'as pas cette croyance à tout, au club, à l'entraîneur, au directeur sportif, au groupe, t'as des joueurs naturellement n'optimisent plus à 100% leur potentiel.
Ouais.
Là, pour l'instant, regarde bien l'histoire de Lille. Fonseca, il n'a toujours pas annoncé, il va peut-être certainement se barrer, mais lui, pour l'instant, il dit match par match, on y va, le groupe, on a quelque chose à aller chercher.
Tu trouves qu'il parle trop ?
Je trouve que Mais
finalement,
non, c'est peut-être
mais
pas par là, si Franck Hayes. Je pense que là, il parle avec son cœur parce que et moi, tu sais que je le défends et que je l'aime bien. Hayes a fait du bon boulot. Il est frustré là. Il perd parce qu'il sait qu'il y a un banc réduit. Mais au fond de lui-même, il sait très bien. Il sait très bien qu'il y a des choses qui vont pas au club. Et là, je vais te dire, dans le management, Lucas, il a raison. Lucas, ce qu'il raconte, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution. Ils savent pas qui prendre pour essayer de trouver le plan. Il faudrait un nouveau coach pour trouver un nouvel organigramme.
20 secondes, Lucas.
Ouais. Aujourd'hui, on peut faire le parallèle avec le LOSC. On a une tête principal porte-parole qui est Olivier Létang qui gère tout, et on a des personnages de l'ombre qu'on n'entend jamais, qui travaillent très très bien. Et Paulo Fonseca, les seules fois où il a sorti un petit peu, où il a tapé un petit peu du bois sur la table, c'était pour balancer sur son groupe et voilà, dire voilà, j'ai besoin d'un attaquant, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais c'était pas pour dire aujourd'hui je fais avec ce que j'ai, parce que ça, je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis de sa direction.
Il avait quand même un peu dit un jour j'ai un effectif assez limité.
Et il a tapé juste.
Olivier Létang n'a pas forcément bien pris hein. Allez,
on n'est pas là pour ça, on vit pas au pays des bisounours.
Et ben, on en parle dans un instant de Paulo Fonseca, après avoir débriefé cette déclat de Francaise. Vincent est à la réalisation. Ahmed vous attend au standard 03 20 55 89 89 pour remporter le ballon Kipsta de la Ligue 1, Kipsta Décathlon. Ballon d'une valeur de 80 euros, c'est le vrai, ce n'est pas une réplique. Question
pour un champion.
Facundo Medina a failli être expulsé deux fois dans ce derby, vendredi soir. Il est l'un des joueurs de Ligue 1 qui prend le plus de cartons, voire peut-être celui qui en prend le plus. Combien de cartons jaunes a pris en Ligue 1 Medina depuis le début de la saison ?
7. Bon,
c'est 10.
7, 10 ou 13, mais ne c'est répondez 10. Pas. 7, 10 ou 13. Vous avez un indice de Stéphane Powels, un indice de Rémi. Appelez 03 20 55 89 89. Combien de cartons jaunes pour Medina depuis le début de la saison ? À la clé pour vous, le ballon de la Ligue 1.
Vivez les émotions de Paris-Roubaix en direct sur France Bleu, deux jours de course.
Quatre hommes en tête, un peloton qui contrôle la course derrière à 1 minute 43.
Samedi, Paris-Roubaix femme dès 14h, 145 km de course et la moto France Bleu en direct. Dimanche, Paris-Roubaix homme dès 9h. Les préparatifs, la course 256 km et l'émotion.
La commune de Wannemain, on a Quentin en Pével juste devant nous et on va tourner à gauche.
L'arène des classiques est à vivre en direct grâce à un dispositif spécial. La moto France Bleu, nos reporters aux endroits clés et l'arrivée en direct.
Ils avaient une équipe vraiment très forte au départ et c'est pas la situation de course la plus adéquate pour eux.
Vivez tout Paris-Roubaix, la course femme samedi dès 14h, la course homme dimanche dès 9h.
Reste encore 300 mètres à parcourir.
Là, vous entendez. Et les notes printanières de la musique Le Roi Merlin se mêlent au chant des oiseaux dans votre jardin. Et c'est beau! Mais là, quand je dis que le showroom Natérial, c'est 1000 mètres carrés de pergolas, de salons de jardin et de barbecue, là vous vous dites, eh oh, oh, un peu moins fort les oiseaux. Notez bien, le showroom Natérial, c'est à Lille-et-Lemme et c'est ouvert tous les jours.
Le Roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici.
Et à 18h, allez, 31, à peine un petit rappel de la route qui roule plutôt bien aujourd'hui, hein, ce lundi de Pâques, férié, tout ça. Mais alors attention juste, peut-être sur la 25, sens Dunkerque-Lille, le littoral avec juste, enfin le retour peut-être du littoral j'imagine, après ce long week-end, quelques ralentissements, niveau Bailleul, Méterren tout à l'heure, l'arrivée sur Anglo un petit peu délicate aussi, et puis la 1 sens Paris-Lille, quelques retours j'imagine là aussi, puisque le secteur de Dourges, encore tout à l'heure ça ralentissait légèrement avec des petits coups de frein aussi aux abords de Seclin, Fâche-Tuménil, Vandeville. Donc voilà, juste un petit peu de prudence sur le secteur, tout va bien se passer pour terminer admirablement bien ce beau et long week-end pascal. Je rappelle quand même la petite question, Facundo Medina a failli être expulsé à deux reprises vendredi soir. Il est l'un des joueurs de Ligue 1 qui prend le plus de cartons. Ouais. Sylvain vous l'a dit et vous a posé la question pour gagner le super ballon qui est mis en jeu chaque lundi. Je me permets, pardon Sylvain, mais
quelle mémoire.
Non, c'est devant
vous
mes yeux.
Vous rappelez la question.
Bah, combien de cartons jaunes depuis le début de la saison dans Ligue 1 pour Medina ? 7, 10 ou 13, sachant qu'il y a eu deux petits indices de données quand même.
Oui.
Voilà, tout à l'heure.
Et moi, j'en donne un troisième, 13.
Ah bah comme ça tous les chiffres ont été donnés.
C'est un loser lui à la
position. Oh bon, enfin.
Il a perdu ce week-end.
C'est perdu le derby.
Ouais, le derby, ça y est. D'ailleurs, vous remettez dessous dans le
monde. Je suis en soi.
Voilà, c'est ça. On est le 1er avril, hein, quand même. Voilà, faites attention quand même. Hein. Bon, allez, vous appelez encore, mais je vois que ça cartonne. Mais à mon avis, c'est gagné. 0-3-20, oui, 55, 89, 89. Deuxième mi-temps, c'est parti, Sylvain.
C'est parti, coup d'envoi.
Allez.
France Bleu Nord, 100% foot. Tribune Nord sur France Bleu Nord.
Alors, on va parler de Paulo Fonseca dans quelques instants et son innovation tactique ce vendredi dans le derby. On va revenir sur les hommes du derby, notamment Zegrova et Medina. Valenciennes, forcément, les joueurs valenciennois sont partis ce soir. Ils sont partis tout à l'heure là pour Lyon. Ils devaient être arrivés, ils partaient en avion depuis la région de Valenciennes. Et donc, demi-finale demain, 20h45 face à Lyon. Valenciennes qui a encore perdu en championnat, mais demain est un autre jour et surtout, c'est un autre match avec cette demi-finale de Coupe de France. Je n'oublie pas le top comme spécial Coupe de France, car on arrive sur la fin de cette compétition. Et puis, j'ai aussi le quiz pour nos invités et vous pouvez également jouer à distance.
Tribune Nord, le buzz des réseaux.
Et le coup tactique de Facundo Medina a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux avec cette petite innovation. On a vu Ismaili en phase défensive dans une défense à 5 à côté de Yoro
et, poisson d'avril.
Et de Diakité. Ce n'était pas un poisson d'avril et ça a très bien fonctionné.
Ils sont à 5.
Ils sont en 5-2-3. On va avec Ismaili qui est placé à côté de Yoro et Diakité. Gudmundsson qui joue dans le couloir. Mais après, Ismaili, il a une position aussi pour venir gérer Florian.
On a matché homme pour homme et on a été courageux dans ce sens-là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui décident de se mettre en 1v1 face au Lensois. On l'a fait aujourd'hui et ça a très bien fonctionné pour nous. Et avec le coach, on en apprend toutes les semaines, on n'a jamais fini d'apprendre. On vient tous les jours à l'entraînement en apprenant des nouvelles choses.
Vous avez reconnu Nabil Bentaleb, milieu de terrain du LOSC, dit Tirambic au sujet du coach Fonseca, qui donc n'a eu ses joueurs que 24 heures avec le retour des internationaux, et leur a dit: bon les gars, et ben les Lensois, on va les défendre à 1 contre 1, on va passer à 5 derrière, et on va mettre Ismaili dans la défense à 3. Quand Mehdi Zeguin, notre coach consultant, m'a dit avant le match: je pense qu'Ismaili va jouer dans une défense à 3, personnellement je l'ai regardé, mais d'où ça sort? D'où Mehdi, tu me sors ça?
Sauf que lui est coach
et
pas toi, quoi.
Ben voilà, et ben voilà, encore une fois,
si
chacun sa
écouté,
place. Non mais incroyable, Ismaili dans la défense à 3,
ouais.
Défendre en 1 contre 1 face au Racing Club de Lens. Déjà depuis quelques semaines, il évolue dans un milieu à 3, enfin, on renforce le milieu de terrain.
Ce coach est fort.
Incroyable.
Fonseca est fort. Moi, je sais pas vous, mais d'ailleurs, je t'ai envoyé des SMS pendant que tu étais à l'antenne. Le positionnement d'Aralson. Bah, tu sais que depuis le début, je trouve qu'il a un énorme potentiel, il a du mal, hein, on va pas se cacher. À un moment, je dis, mais là, comment il joue, il va mettre en difficulté son équipe. Tu sais pas où il joue. Hein. Donc à un moment, après c'est lui qui a couru le plus
il
de son équipe.
Il était électron libre.
Il était électron libre. Ouais, mais sauf qu'à un moment, quand il était en animation offensive à récupération, c'était pas mal. Quand il était en récupération, c'était pas mal. Mais en animation offensive, quand il perdait un ballon, tu te retrouvais dans une merde sans nom. Et là,
mais c'est lui qui perd le ballon sur l'arrêt.
C'est lui. Mais là, il avait mis un système en place défensif pour colmater sa Fonseca. Parce que c'est ça. Il en a perdu 2-3. Moi, je devenais fou devant ma télé. Mais il perdait des ballons trop faciles. Mais qui suis-je pour juger Fonseca? Parce que sa mise en place tactique fait que pour finir à Ralson, c'est bien la première fois que je vois dans le journal L'Équipe qu'on dit qu'il a fait un bon match et qu'il a reçu une belle note.
Mais donc, ça aussi, c'est quelque chose que fait Fonseca. Au début, il l'a mis sur le côté, Rémi, à Ralson, et désormais, il est électron libre axial. C'est un joueur
axial. Mais c'est
axial.
Un axial en équipe nationale, voilà, c'est là où il est le meilleur. Il n'a pas la puissance et la vitesse pour jouer sur un côté.
Mais c'est fort ce que fait Fonseca, semaine après semaine.
Il a été exploité et optimisé les compétences donc de Ralson. Parce que finalement, dans l'axe, moi je l'ai trouvé très très bon. Et il y a un truc qui est extrêmement intéressant là-dessus, c'est qu'il faisait la différence souvent un contre un, et ensuite ça permettait d'aérer le jeu. Parce que forcément, quand il élimine un joueur au milieu de terrain, ça veut dire qu'il y a un espace qui se crée. Et ça, il l'a fait beaucoup de fois. Donc évidemment, ça fait que par moment il y a des pertes de balles, comme disait Stéphane, bien évidemment. Des pertes de balles relativement basses, entre guillemets, parce que c'était au milieu de terrain, et il y a de quoi devenir fou, je l'entends bien. Mais par contre, quand ça passe, bah, ça crée occasion de
ce qui fait très bien, après j'ai la parole à Lucas, ce qui fait très bien Ralson, c'est en première attention. Il reçoit un ballon, il lève la tête, la base du football, et tac, il la donne bien. Ce qui va pas, c'est quand il commence à vouloir dribbler, à avancer, d'ailleurs l'occasion qu'il a, il doit la mettre, hein, parce que avec le talent qu'il a, l'occasion qu'il a en face à face avec le gardien, il doit tenter tout de suite,
mais
il doit de suite, et ça il s'est pas encore fait.
À la stratégie globale de Fonseca, voilà, il optimise et voilà, il fait des choix, il a des idées, Lucas. Et les joueurs étaient dithyrambiques à son sujet après le match vendredi soir.
Aujourd'hui, sa vraie force, c'est d'avoir tout son groupe derrière lui. Et le fait d'avoir tous ses joueurs derrière lui, ça montre à quel point il est compétent dans ce qu'il fait. Il arrive à convaincre ses joueurs. Et au plus haut niveau du foot professionnel, le plus dur, je pense que c'est de manager. C'est de convaincre les joueurs d'être avec toi. Et une fois que les joueurs sont avec toi, ça se transmet comme ça, c'est transmis sur le terrain. Aujourd'hui, peut-être aussi, par exemple, le cas Haraldsson qui jouait sur la gauche. Peut-être que Fonseca était capable d'analyser, de voir dans ce gamin, Il y avait juste un vrai numéro 10 à l'ancienne, à le mettre au milieu, à son poste de prédilection, à le laisser jouer, à lui mettre aucune
sinon
barrière.
Sinon on l'a vu, voilà.
Alors, bon, non, c'est, oui, mais au début, on le voyait pas forcément. Au début, on ne le voyait pas forcément.
C'est quand je l'ai vu dans l'axe que je me suis dit qu'il n'a rien à faire à gauche.
Voilà, oui, aujourd'hui, la force de Fonseca, c'est de réussir à analyser ses joueurs et surtout à les mettre avec lui, à les mettre derrière lui.
Mais là où il est fort, c'est que moi, j'ai toujours le souvenir des premiers mots prononcés par Paolo Fonseca quand il arrive à Lille. C'était attaque à outrance. Moi, je veux gagner, en gros, marquer un but de plus que l'adversaire. Et derrière, bam, il se fait fesser par le PSG, 7-1. Et semaine après semaine, je trouve qu'il a évolué. Je trouve, Stéphane, que ce n'est plus le même coach. Lui aussi, je trouve qu'il est en maturation.
Non, sauf que si tu le mets demain, ce coach-là au Paris Saint-Germain, il va jouer offensif avec la batterie d'attaquants qu'il a. Il s'adapte, c'est ça les grands entraîneurs.
Oui, mais au début, il n'avait pas prévu de s'adapter en arrivant à Lille. Il voulait jouer attaque à outrance.
De l'ego, ils l'ont tous. Qu'à un moment, tu es bien obligé de t'adapter si tu te rends compte que jouer à outrance et que tu as la moitié de tes joueurs.
De l'ego, c'est l'intelligence aussi.
Les Cabella et compagnie, quand ils sont face au but, ils tapent à côté. À un moment, il s'est dit, je vais revoir ma position. C'est ça. Et il s'est dit, je vais revoir ma manière de jouer. Ça s'appelle l'intelligence.
Au-delà de ce qu'il peut mettre en place en termes de dispositif, il y a également les tactiques de jeu, l'adaptation à ce que va faire l'adversaire. Et là, face à Lens,
c'est nouveau, ça, chez lui, l'adaptation à l'adversaire.
Moi, je suis complètement d'accord parce que là, il l'a quasiment fait à la perfection. Parce que le Racing Club de Lens, c'est une équipe qui à la base court beaucoup, joue énormément sur les côtés. Là, ils ont quasiment pas pu faire.
Les gars, on parle comme des consultants et comme des journalistes. Non, mais vraiment. Hein. Et je me mets dans le lot.
J'espère bien.
Mais quand j'ai travaillé dans des clubs, au LOSC, à Monaco ou ailleurs, à un moment, l'entraîneur, tu sais, il y a beau mettre un truc sur papier la semaine et t'expliquer qu'il faudrait qu'on joue offensif comme ça, et qu'à un moment, et c'est là où je peux vous rejoindre, c'est quand à un moment tu sens que les mecs, je prends Cabella en exemple parce qu'il y a eu 2-3 matchs, je dis mais qu'est-ce qu'il fout Cabella, il fait n'importe quoi tactiquement.
D'ailleurs, il joue plus.
Mais il fait vraiment, c'est ce qui s'appelle. Tu le vois bien, n'importe quoi, et que Fonseca, à un moment, le mec, il en a plein le derrière, parce qu'il voit que les mecs, ils font n'importe quoi tactiquement. Ben, à un moment, là, je veux bien vous rejoindre, c'est qu'il s'est peut-être repositionné lui-même en disant, je vais peut-être devoir jouer de manière différente, les gars devant moi. N'oubliez pas qu'il a joué avec un attaquant qui est le meilleur attaquant du championnat, qui a joué crevé pendant 2 mois.
N'oubliez pas, la saison dernière, à un moment, Lucas, il prend but sur but en fin de match, il décide de temps en temps de finir les matchs à 5 derrière. Là, il passe à 3 milieux, là, il est passé à 5 derrière. Enfin, à Marseille l'année dernière, où aussi, une fois, il avait joué à 5 derrière. Il est capable de s'adapter. Moi, je trouve qu'il est
pas nouveau,
caméléon.
C'est tout un travail, et c'est aussi la force des grands coachs, c'est de savoir bien s'entourer. Il y a un vrai staff de qualité, je pense, aujourd'hui au LOSC. Déjà, quand ils ont été champions, quand ils ont réussi à se qualifier pour la première fois pour la Ligue des Champions, après avoir failli descendre il y a 4-5 ans, c'est un club qui fonctionne très bien. C'est un club qui a été remis sur pied d'une manière franchement incroyable par Olivier Létang, et je suis pas là pour lécher les bottes d'Olivier Létang, mais c'est vrai, il y a un vrai travail de fond qui a été fait de tout en haut, même de tout en bas, et aujourd'hui ils ont été choisir un coach, il le laisse travailler, lui laisse du temps, et aujourd'hui il faut quand même laisser un peu de temps aux entraîneurs. Il a pas coaché à la S-Roma pour rien aujourd'hui. Aujourd'hui on s'est un peu enflammé sur Francaise, etc., mais aujourd'hui la phrase on fait avec ce qu'on a de Francaise, Paolo Fonseca, il fait aussi avec ce qu'il a, et il le fait très bien. Il a réussi à aller chercher la vraie force de ses joueurs, et aujourd'hui, ça marche.
Et pour aller plus loin, parce que là, j'ai un allié, parce que souvent, quand je défends Olivier Létang, je me fais fracasser. Non, mais moi, je pense qu'il fait du bon boulot. Alors, certainement qu'il fait aussi parfois des erreurs. Mais il ne faut pas oublier, dans le club, il y a le patron de l'association, Patrick Robert, il y a Jean-Michel Van Damme qui fait. Non, mais il faut le dire. Quand tu as un gamin de 16 ans et demi qui joue en équipe première, il faut qu'il y ait la symbiose entre la direction.
Oui, bien sûr.
La direction, la direction des jeunes et l'entraîneur. Parce que moi, je connais des clubs où il y avait des bons gamins. C'est quoi le jeune marocain
Le petit Boadi.
Ouais.
International des U17.
Moi, je peux te dire que dans 10 000 clubs, ils jouent pas parce qu'il n'y a pas cette symbiose entre les triparties.
C'est possible.
Et donc, je pense que pour l'instant, le club travaille bien, effectivement, on a Fonseca qui est un excellent coach, mais on va rester calme, mon cher Sylvain, parce que on est capable lundi prochain de pleurer les larmes de notre corps, parce que il y a 3-4 joueurs du LOSC qui font n'importe quoi, et ça il le sait, Fonseca, et il le sait parce que t'as quelques joueurs quand même qui ne font pas toujours le job. Et je répète que le fond d'une équipe, c'est les valeurs sûres, les Benjamin André, est-ce que Lens n'a peut-être plus maintenant les guerriers. Quand t'entends parler Samba, que j'adore, mais qui parle comme un loser, il faut pas parler comme un loser. Mais non, j'aime bien ce garçon.
Il était dépité, le pauvre.
Même quand on est dépité, winners.
On enchaîne. Voilà. Ils sont réunis autour de la table. Stéphane Powell, Suka Aubin et Rémi Coquel.
Tribune Nord, le joueur de la semaine.
On va en mettre un plus en avant. Zegrova, le buteur lillois, et un moins, le Medina du Racing Club de Lens, dépassé très régulièrement.
Bentaleb dans le rond central, le long ballon pour Zegrova, contrôle de la poitrine, contrôle du pied gauche à l'entrée de la surface de réparation, le face-à-face, il arme, lui, le but, et Don Zegrova, y a-t-il position de hors-jeu? Non, oh, le numéro des Don Zegrova. Medina une fois, Medina deux fois, oh là là, et Benjamin rouge. fou furieux, c'est après rouge. Ce tacle de Medina, carton rouge pour Medina à la 34e.
Bon, le rouge a été retiré. Finalement, c'était un jaune. Mais voilà, c'est un peu le symbole de ce match, celui qu'a Aubin. Medina face à Zegrova. Zegrova, le feu follet. Et Medina qui retombe un peu dans ses travers.
Ouais, moi, pour moi, c'est même pas le symbole du match. C'est le symbole de la milieu, fin de saison du Racing Club de Lens. Et encore une fois, je suis peut-être buté sur mes idées, mais c'est la fin d'un cycle. Medina, il a fait une super saison l'année dernière. Il a fait un super début de saison. Il a fait de super matchs en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, quand je vois le match de Medina face à Lens, à part mettre des pains et essayer de pousser Eden Zegrova sur les panneaux publicitaires pour essayer de l'énerver, j'ai l'impression qu'il est plus capable de faire grand-chose d'autre. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, autour de la table, mais aujourd'hui, pour moi, Medina, bah, il ne met plus un pied devant l'autre, en fait.
Non, je pense que... Peut-être, mais j'ai un autre regard. Je pense que Medina, il sait très bien qu'il va se barrer et qu'il y a des grands clubs qui le veulent. Medina, c'est un joueur, à mes yeux, exceptionnel. Et dans toutes les équipes, j'aimerais bien en avoir un parce que c'est un découpeur. Il faut un méchant. C'est notre Benjamin André, hein, c'est un peu ça. Moi, je pense que... Quand t'es dans une équipe qui est malade, qui brouillonne, tu deviens brouillon. Et lui, tu peux pas demander à chaque match, parce que moi j'aime beaucoup Medina, on a fait des matchs ici où il tirait l'équipe vers
le haut. C'est lui qui donne le ballon à Hawaii pour la réduction du score.
Nous sommes d'accord. Donc je pense qu'à un moment, ben, forcément, il est moins bien. Dire qu'il met pas un pied devant l'autre, je te trouve sévère, mais t'as le droit. Hein. J'aime bien ta moustache. On dirait un peu Higgins dans Magnum. Regardez un petit peu. Faut aller voir sur l'internet, c'est terrible.
Photo sur les réseaux.
Je trouve que Lucas, je trouve que t'es sévère. Je pense qu'il est victime d'une équipe qui bafoue son football.
Ok, d'accord, il faut un découpeur, il faut un mec un peu hargneux sur le terrain, mais aujourd'hui, quand je le vois à chaque match, j'ai l'impression que son but, c'est d'essayer de faire sortir un adversaire de ses gonds.
Mais il est comme ça, c'est
un
argentin.
Contre Séville, il s'est mis sur Sergio Ramos. Contre Lille, il s'est mis sur Zegrova. Contre Marseille, il va se mettre contre quelqu'un. Contre Paris, pareil.
Mais il est comme ça, il sera comme ça ailleurs.
Ouais, mais essaye de montrer, justement, même si ton équipe est en train de couler, et tu sais que tu vas te barrer, essaye de montrer que jusqu'au bout de la saison, t'es capable d'essayer de tirer ton équipe vers le haut.
Mais c'est comme si tu demandes à Nakamura de chanter comme Edith Piaf, tu peux pas tout faire. Elle peut faire semblant de le faire.
Elle peut faire de son mieux.
Elle
peut essayer de monter dans les aigus autant qu'elle peut.
Elle peut essayer de faire son bien, mais lui, tu vas pas lui demander de jouer à la Zidane.
Aujourd'hui, même Brice Samba, on va y revenir, mais sa façon de parler, le ton, le timbre de sa voix aussi grave. Franchement, c'est quand même un cadre du Racing Club. C'est le capitaine du Racing Club de Lens. C'est le troisième, deuxième gardien de l'équipe de France. Tu peux pas dire.
Là, je te rejoins.
Bah voilà. Rémi, c'est pas possible aujourd'hui.
Rémi, sur le cas Medina.
Il y a trop de choses à dire.
Très intéressant.
Il y a trop de choses à dire. Je me rends compte qu'à quasiment chaque Tribune Nord, je me retrouve à parler de Facundo Medina. Ce qui ne me dérange pas parce que.
T'as le fan club aussi, hein. T'es tatoué Facundo.
Je suis tatoué Facundo Medina.
T'as un tatouage Facundo sur ton bras. Non. Montre-le à la caméra.
C'est pas Facundo pour le coup.
Franchement.
Pas encore, faut pas abuser. Non, plus sérieusement. Moi, je trouve pas qu'il retombe dans ses travers. Après, il faut aussi dire une chose, c'est que bon, une période un petit peu sans, ça arrive, et là, ça va de connivence avec le fait que le Racing Club de Lens n'aille pas vraiment bien. Mais après, si on repart deux semaines en arrière, le Racing Club de Lens venait d'aller trier Lyon chez lui et avait battu Brest dans un match très intense. Donc il y a deux semaines, on n'avait pas du tout le même discours. Est-ce qu'on peut vraiment devenir alarmiste au bout de deux matchs ratés, entre guillemets ratés, de Medina? Alors moi, le match face à Lille, j'ai pas trouvé forcément que c'était un match raté. Je vais quand même m'expliquer. Un match qu'il a réellement raté, plutôt, face à Nice, parce qu'il fait sa boulette qui fait que Nice se met très bien en début de match pour ensuite enterrer les Lensois. Mais finalement, c'était entre guillemets sa première vraie boulette de la saison. L'année dernière, il en avait fait une à Lorient, il n'y avait pas eu de conséquences. Là, contre Nice, il y en a eu. Bon,
ouais,
ça arrive.
C'est plus son comportement là. Je rejoins Lucas. Son comportement sur le terrain, sincèrement, il s'en sort bien. Il est quand il frappe le ballon sur un adversaire lillois.
Oui.
Ça c'est le craigneux.
Ah là, mais
sérieux, mais ça c'est lui ça.
Il peut être expulsé.
Mais je suis d'accord avec Stéphane.
Mais ça c'est lui.
Voilà, je suis d'accord avec Stéphane.
Tu aimes ce type de comportement?
Moi je suis pas là pour aimer ou pas aimer, je suis là pour commenter. Moi, je pense que Facundo Magno, quand il fait ce geste.
Facundo,
c'est café con leche, por favor. Quand je le vois faire son truc là, ça m'agace quand il tape là. Mais c'est lui. Mais le gars, et je le répète, c'est un peu tous ces messages que quand Frank Hayes annonce quelque part un départ annoncé il y a quelques mois, quand il dit je vais plus m'occuper du reste, ces joueurs-là, dont lui,
D'ailleurs, vous le savez, il est en contact avec des clubs, il sait qu'il va partir. Donc à un moment, il n'est plus à 100%. Mais... Donc, de temps en temps, il pète des boulards. De temps en temps,
Rémi
et les deux fils ne se touchent pas.
Rémi, voilà, bon, Rémi et Lucas.
Je vais essayer d'aller vite parce que...
30 secondes chacun.
Mais moi, il y avait Medina qui avait dit dans une interview il y a quelques temps que l'adversaire qu'il redoutait le plus... en Ligue 1, c'était Zegrova. Là, il se retrouve en recul frein face à lui. Bon, voilà. Moi, je me dis que, en plus, un peu esselé, parce que finalement, Chavez, il était parti à l'abordage. Avec Machado, ça aurait pas été, je pense que ça n'aurait pas été la même chanson, et ce n'est pas la même chanson quand il y a Machado. Ça fait 4 mois qu'il est pas là, bizarrement. Medina, il est un petit peu en dessous. Donc, est-ce que ça a pas un lien
avec Zegrova?
Lucas, pour conclure,
c'est vrai aussi.
On parle quand même de 2 ou 3 joueurs qui sont amenés à partir cet été. Kevin Danso, s'il se met à faire du Medina, bah, la défense du Arsenal, ça prend l'eau. Et aujourd'hui, c'est vrai que le point du comportement de Medina, voilà, débouché, on en connaît. Moi, j'adore aussi ce type de joueur, comme par exemple Benjamin André. Voilà, c'est dans le jeu, c'est du physique, ça tape. À l'époque, alors je l'ai pas connu, je suis encore un peu jeune, mais Eric Dimeco, c'est quelqu'un qui allait.
Fernando D'Amico à Lille, c'était ça, du Racel.
Exactement. Voilà, c'était un boucher, mais là Medina, c'est un peu du, c'est sournois, c'est voilà, c'est roublard, c'est un
mais
peu
c'est un
tire
Argentin,
le maillot.
Il fonctionne
vraiment,
comme ça.
Voilà, c'est exactement ça. Je vais vraiment te pousser à bout et puis te faire péter un plomb.
Eh ben, on espère qu'il sera de retour à un meilleur niveau face au Havre samedi. Il vient en 20 secondes.
Il vient de dire un truc intéressant. Si
toujours
Danso commence aussi à limiter ses qualités de prestation, ça va devenir compliqué. Alors, s'ils sont 3-4, et Brice Samba, là, on est mal. Hein.
Rémi le disait, il y a eu Lyon et l'enchaînement de la victoire avec Brest, mais il y a quand même aussi...
Mais ils n'ont pas gagné un match contre les grosses équipes.
Fribourg, Monaco, c'est et c'est Brest. 4 points sur les 30.
Brest.
4 points sur 30 contre le top 5.
Mais d'où la déclaration,
ils vont jouer des petits, ils vont prendre des points à domicile. Il ne faut pas les enterrer, peut-être dans 2 semaines, ils seront devant Lille.
Mais aujourd'hui,
il destin entre ses mains en battant les concurrents, voilà, plutôt qu'attendre que tes concurrents se vautrent.
Ah mais là,
parce
tu l'as,
que t'as pas été capable de gagner
encore
contre eux.
Là, tu l'as
oui,
encore
bien sûr,
destin.
Mais je pense qu'aujourd'hui, à la différence du LOSC, le LOSC est capable de battre des grosses équipes ou de faire des matchs nuls contre le PSG.
Je suis d'accord.
Pour se mettre un petit peu dans la tranquillité.
Et donc lancer à sa place.
Rémi Coquel, Lucas Aubin, Stéphane Powels réunis ce soir.
Tribune Nord, toute l'actualité de la Ligue 2 en direct sur France Bleu Nord. Sylvain Charlet.
Et Valenciennes sera à Lyon demain et Valenciennes sera supportée par ses fans. Ils seront 1200 sur place et il y a aussi des fans comme ce supporter de 77 ans qui vont regarder le match à la maison.
Et là, on va se réunir en famille, on va être une dizaine autour d'une télé et puis on va suivre le match. Ma maman, elle est décédée, alors elle sort 1 an maintenant et elle était déjà fan de Valenciennes. Moi, j'ai suivi la première finale, je crois que c'était en 51. Après 70, c'était en demi-finale, 70, ça fait quelque chose de les voir là. C'est pour ça qu'on veut les supporter au maximum pour que ce ne soit pas à 203. Il faut qu'ils passent.
Elle court la maladie d'amour de 7 à 77 ans.
C'est génial. Hein.
C'est beau.
Ce témoignage, il est magnifique. Vous pourrez l'entendre en intégralité sur les réseaux de France Bleu et puis demain matin sur notre antenne. Mais voilà, on a envie d'y croire. Mais bon, Valenciennes a été battu par Saint-Etienne ce week-end. Bon, même si Cantari a fait tourner, Lucas Aubin, vous y croyez, vous, à... Bon, je me rappelle de Stéphane Powels avant Lens Arsenal, qui était un des rares à dire ils sont capables de les battre. Là, voilà, on a encore un match, une équipe face à une montagne. Valenciennes-Lyon, ça passe ou ça casse?
Moi, je pense que ça casse, parce qu'en face, on a quand même l'Olympique Lyonnais, avec, voilà, même si la saison en championnat de Ligue 1 est un peu plus difficile pour eux, ils ont quand même une armada offensive et un sacré effectif par rapport à celui de Valenciennes, sans lui manquer de respect. Et puis, on a aussi un Olympique Lyonnais qui fait une saison assez difficile en termes de classement. Et peut-être qu'aller chercher la Coupe de France, c'est aussi un moyen d'aller chercher une Coupe d'Europe qui était inespérée il y a encore 3-4 mois.
Ils n'ont aucune chance. Non, faut même pas y aller. J'ai un énorme reste.
On y sera demain.
Je vais parler avec des pincettes. Et vous savez que j'aime beaucoup ce coach à Valenciennes. Je pense même que la grave erreur, c'est de l'avoir enlevé quand il est passé. Il a sauvé le club avec les gamins. Et ça, je l'ai déjà dit à cette antenne. Donc, M. Cantari, j'ai un énorme respect. Sauf que ce club, dans la gestion, c'est j'ai eu difficile d'avoir une lecture. Je ne vais pas critiquer.
Non,
mais
non,
c'est
non. Mais
catastrophe.
Là, le match de demain.
Les raisons que dit.
Parlons des joueurs.
Et Textor, son club en Belgique, la ramasse totale. Ils vont descendre, RODM. Ils sont dans les play-downs.
Molenbeek,
c'est une catastrophe. Là, championnat.
Dixième.
Pour Lyon, c'est une catastrophe. Il n'y a aucun accès site.
Oui, ils sont remontés.
C'est terminé.
Le championnat est fini.
Mais ils ne descendront pas parce qu'à un moment, ils étaient 18e, 16e, 17e.
Un club comme Lyon,
ils l'ont été. On a parlé.
Mais
d'accord.
Quand t'achètes des Orban 25 millions d'euros, c'est pas pour jouer la relégation, c'était pour jouer le top 5. Bon, donc là, c'est mort. Ils reçoivent Valenciennes. Ils vont pas laisser, autant te dire que là, ils vont aller avec les armes et les flèches, hein. Ils peuvent pas, et surtout qu'ils ont quand même des joueurs de qualité. Et j'ai, avec un énorme respect de Valenciennes, c'est, moi, je veux bien, Lens, c'était possible de battre Arsenal. Mais là, c'est le miracle, c'est à Lourdes, hein. Ou alors tu joues à Lourdes, hein. Enfin, directement, je joue à Lourdes, hein.
Oui. Que dire après ça?
Est-ce que vous y croyez?
Bah, d'aller à Lourdes.
Est-ce que j'y crois? Bah, c'est vrai que là, tout ce que Stéphane a dit, c'est vrai, c'est réel, parce que Lyon, en gros, doit sauver sa saison. Donc, en effet, Lyon va forcément devoir gagner ce match. Maintenant, on parle quand même de la Coupe de France. On a déjà vu des équipes de National ou plus bas aller taper des équipes de Ligue 1. Donc je me dis que si là on dit que Valenciennes n'a aucune chance, bon ben il y a aucune, ça sert à rien de jouer la Coupe de France.
Mais non, il y a aucune chance. Rémi, c'est pas ça, c'est que quand t'as des petits qui jouent contre des gros, on parle d'avant de demi-finale, t'étais dans une euphorie. Ici c'est gentil, ces gens et c'est valeureux supporters, respect. Mais ici t'es dans un contexte d'un club qui est dernier en D2 et d'un autre club qui est pété de thunes.
Et pourquoi pas?
Et que c'est le match, c'est ça ou mourir, c'est ça ou alors Textor il pète un câble, il vire tout le monde.
Ouais, mais c'est donc, un peu la même chose à Valenciennes.
Et je pense que l'entraîneur de Lyon il a oublié d'être con. Et donc Pierre Sage. Donc je pense vraiment qu'un énorme respect de mes amis de Valenciennes, ça va être très compliqué.
Tour de table. Prono, Lucas.
Non, je dirais. Allez, un petit 2-0 pour Lyon.
Ok, Stéphane.
5-1.
Ok, Rémi.
3-0 Lyon.
Ok.
Malheureusement.
C'est l'autre qui vient nous dire, il peut
mais
me
oui,
le faire.
Mais oui, mais il y a une différence entre ce que je pense et.
Je m'appelle Rémi, je suis sans famille, qu'est-ce que c'est que ça?
Il a osé.
Lucas. Je pense surtout que le plus important pour les Valenciennois, c'est d'essayer de donner du plaisir à leurs supporters après une saison qui a été très difficile, avec une relégation qui.
Mais il faut gagner
de toute
alors.
Façon, va
ça s'appelle de la com.
Non, mais on peut essayer de faire du mieux possible, de livrer un bon match, d'essayer de résister à cette équipe lyonnaise qui, de toute façon, avec les Lacazette, les Cherki, les Cacré, ça n'a rien à voir avec l'effectif de Valenciennes, sans leur
c'est pas Annecy, c'est pas Saint-Etienne ce week-end, ni Annecy pour
voilà, et déjà, Saint-Etienne, c'est bien au-dessus. Donc, voilà, l'essentiel, c'est d'essayer de faire.
On vous rappelle demain soir.
C'est d'essayer de faire du mieux possible.
On a envie qu'ils fassent quelque chose.
Moi, j'aimerais bien aussi.
On a pas envie, disait Johnny.
On enchaîne.
Tribune Nord. Le Topcom.
Bon. On n'aura peut-être pas de place pour le quiz. En tout cas, on va vivre ce Topcom. On va revivre quelques moments forts de nos clubs nordistes en Coupe de France. C'était par exemple le cas en 32e de finale de Fény-Aulnois, club de N2, qui avait sorti Quevilly, formation de Ligue 2. Écoutez le président Laurent Ménissé après ce bel exploit.
C'est pas descriptible. Du début à la fin, c'est incroyable. T'as l'impression que tu vas t'effondrer, là, c'est incroyable. C'est magique, c'est extraordinaire. D'autant plus que j'ai voulu le voir sur le banc de touche. Et c'est totalement différent avec les coachs. C'était vraiment génial. Puis ils nous ont fait une prestation incroyable.
Puis c'est aussi beaucoup de maîtrise sur ce match.
On a fait Paris, trop d'excitation, trop de préparation. On a fait Valenciennes, pareil, mise au vert et blablabla et blablabla. Enfin, beaucoup trop d'excitation. Ici, je leur ai dit, on va la jouer. On va jouer, prenez du plaisir, jouez là. Ne soyez pas spectateur, jouez là à fond. Et on l'a fait chez nous, avec un terrain qui était entre nous bien dégueulasse. Mais on était chez nous. Et ça, je peux te dire que ça a changé beaucoup de choses. Et puis les gars, aujourd'hui, étaient détendus. Ils l'ont joué pour le plaisir et on l'a gagné.
Voilà, ils perdront ensuite en 16e de finale, mais Fény est en train de réaliser son objectif, c'est de se maintenir en National 2. Il est beau ce témoignage.
Pour le plaisir.
Ouais. Écoutez, autre témoignage, autre moment de vestiaire. Euringhem, club de D5, c'était au mois de septembre, sorti par l'équipe de Carouble. Ces jeunes seniors ont rivalisé avec un adversaire plus fort techniquement pendant 25 minutes avant de craquer. Carouble va finalement s'imposer 6-1, mais au coup de sifflet final, Tom, le fils du coach, avait très vite oublié sa déception.
Voilà, c'est une expérience inoubliable, c'est la couf. En plus, j'ai eu l'honneur d'être capitaine pour un match comme ça. Les frissons à chaque fois, le stress, tous les petits qui chantaient tout le match, c'est ça qu'on veut voir en fait. Voilà, c'est le plaisir.
On va finir en beauté. Vous êtes prêts? On s'en fout les gars, on est là pour faire la fête même si on est sorti. Allez les gars, pour France Bleu, les pipis,
ouais,
les pipis,
ouais,
les pipis,
ouais,
un, deux, trois,
ouais,
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 ouais, ouais, ouais, ouais,
ouais,
voilà. On a eu l'honneur d'un chant dans le vestiaire.
Parce qu'il y a une autre version. Et pour Sylvain Charlet.
Non, je l'ai enlevé.
Mais il a pas mis l'enlever.
C'est son réveil.
J'avais moins d'ego aujourd'hui.
Ça s'appelle son humilité. Mais c'est pour ça qu'il va enlever.
Allez, séance de tir au but pour. Enfin, fin de match complètement dingue pour Saint-Omer en 32e de finale. Club de Régional Ulle face à Dunkerque. Dunkerque va finalement s'imposer 3-2.
Il y a 5 minutes au départ. Je ne sais pas où on en est. En tout cas, ce match devient dingue. Ce match devient dingue.
Il va tirer à droite du gardien.
C'est frappé. C'est dedans.
Tu l'avais dit?
Saint-Omer 2. Saint-Omer
c'était un autre bon moment de cette Coupe de France et peut-être qu'on va vivre demain. Mais j'ai bien noté vos pronos.
Vous avez oublié Coach Guttals.
Coach Guttals, ah mais non, mais Cassel, Sam Guttals, ils sont sortis depuis longtemps,
mais
malheureusement.
C'était aussi des bons moments.
C'était la saison dernière.
C'était
la saison
génial,
dernière.
Non
là, c'était Revival saison 2023-2024.
D'accord. Mais c'était des bons moments.
Allez, le quiz.
Tribune Nord, le quiz de la semaine.
Allez, je vous pose quelques questions parce que on a quand même très peu de temps. Il faut qu'on lâche l'antenne dans 1 minute 30. Messieurs, le nombre de demi-finales dans l'histoire de Valenciennes en Coupe de France.
Une.
Alors, je vous propose 2, 4 ou 6.
4
demi-finales.
Oh, quatre déjà.
Je reparle du Racing Club de Lens. Combien de points avait le Racing Club de Lens la saison dernière à la même époque?
12 de plus.
12 de plus. Ah, vous avez lu. C'est un quiz Voix des Sports.
Je travaille, moi, monsieur.
Voilà. 54 points la saison dernière au lieu de 42. Qui était titulaire dans la défense à 3 du LOSC avec Yoro et Diakité?
Smaïli.
Bah, Smaïli, voilà. Combien de temps Adam Ounas est resté sur le terrain?
7.
Je vais dire 6 minutes.
Non, un peu plus. 9 minutes.
9 minutes.
Un plomb. Malheureusement, il s'est.
Malheureux, ouais.
Il s'est blessé. La série d'invincibilité est terminée pour Dunkerque, qui a été battue par Annecy 2-0. Elle aura duré combien de matchs?
9.
8.
Un peu plus.
12 matchs.
10 matchs.
10 matchs, bravo.
10 matchs. Combien de points entre Valenciennes et 3, le premier non relégable? À 8 journées de la fin.
12.
35. Non, pardon.
35.
L'autre, il 16, boit.
3.
Tu vois l'apéro, là, chez la belle-mère, 3. C'est pas un truc qui fonctionne.
On va boire un verre après.
De la 10 pack.
18 points.
Ah, 18.
Bon. Merci à tous les trois. C'était sympa de vous avoir autour de cette
table. Il n'y a pas de vainqueur, en fait, ce quiz. C'est juste pour faire plaisir, faire un quiz Voix des Sports.
Si tu gagnes un ballon,
tout le monde s'en fout, quoi. Et mes autres packs.
Tu veux un ballon à 80 euros?
Non, moi, je voulais des sous.
Allez, on t'envoie.
Moi, je le veux bien.
Merci Stéphane Powels. Merci Rémi Coquel. Merci Lucas Aubin. Merci à Vincent à la réalisation et à Ahmed au standard. Et c'est Emmanuel de Doudouville qui a remporté le ballon Kipsa Décathlon. Félicitations à notre gagnant du soir. Salut à tous.
Le ch'ti qui gagne. Agnès Delbar, Zef sur France Bleu Nord.
Qu'est-ce qu'on gagne cette semaine dans le ch'ti qui gagne?
Vous avez remarqué que les beaux jours arrivent.
Oui, c'est le printemps.
Et qu'est-ce qu'on a envie de faire?
Des pique-niques, des barbecues, des randonnées.
Aussi, mais tout ça, on peut le faire en partant en week-end dans un gîte de France.
Ah, c'est pour ça qu'on vous offre une carte de 100 euros pour profiter d'un séjour dans un gîte labellisé Gîte de France.
Et avec 100 euros, on peut déjà se payer un joli week-end.
C'est tous les jours dans le ch'ti qui gagne de 11h à midi.
Sur France Bleu Nord,
évidemment.
France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Nord.
Voilà, Sylvain vous l'a dit, rendez-vous lundi prochain, donc un nouveau Tribune Nord. Il est donc le perdant de ce derby. Non, non, c'était de l'humour, on est quand même à 1er avril. Voilà, on va tout prendre au pied de la lettre, merci. Donc à Vincent qui a réalisé l'émission, à Ahmed également, je les remercie de mon côté. On se retrouve nous demain à partir de 16h, à nouveau 16-19.